Vous avez donc compris que Thérèse n'a pas l'intention de faire un livre nouveau sur la prière. Il y en a assez comme ça. Ils sont assez volumineux. Souvent, ils font perdre la dévotion. Et qu'il suffit, il suffit de se laisser instruire par le Seigneur dans cette prière du Pater, de se mettre à son école pour accomplir ce voyage divin, ce chemin royal vers le ciel. Thérèse va nous faire comprendre avant et en même temps en entrant dans la prière du Seigneur, qu'au fond, ce qui lui importe, c'est le dynamisme de la prière, beaucoup plus que les formes ou les manières de prier. On dit oraison vocale, oraison mentale, gna gna gna, hein. Mais l'important, en fait, c'est le dynamisme de la prière, plus que les méthodes et plus que les formes de prière. D'accord ? Voilà une première chose. Mais elle va essayer un petit peu de nous aider à distinguer, hein, et à voir comment tout s'unit dans la prière du Pater. Hein. Alors elle va, pour une fois, essayer de clarifier un peu les choses. Nous avons donc deux textes. Nous sommes dans le point C, apologie, définition, dynamisme vital de l'oraison thérésienne. Nous avons vu le voyage divin, la détermination, nous l'avons déjà vu, sans peur aussi, donc on va passer. Hein, vous connaissez. Bon, vous savez que ça m'intéresse, c'est sans peur, c'est clair. Qui c'était? Le chevalier sans peur et sans... C'était Bayard, hein, c'est ça. Bon, contre les troupes de Charles Quint, justement. Bon. Sans peur, bien. Alors, ce qui nous apporte maintenant aux raisons vocales, mentales, contemplatives, chapitres 22 et 25. Voilà. Alors, on va lire ça, parce que pour une fois, elle opère des distinctions, des clarifications. Donc, ça mérite d'être souligné. D'accord, hein, pour voir où on en est, ce qu'elle veut dire, et est-ce que les gens comprenaient, et est-ce qu'elle veut qu'on comprenne. Hein. Alors, le premier texte, c'est le chapitre 22, paragraphe. Qu'est-ce que tu dis ? Ça commence bien. Je voulais le 1, 120, paragraphe 1. Pourquoi j'ai mis 22, 4, 8 ? Bon, je voudrais bien le paragraphe 1 d'abord. Ça peut aller ? Alors, en effet, Sainte Thérèse va nous faire comprendre. Bon, tout le monde nous dit, forcément, ça suffit, la prière vocale, tout ça, oui, tout ça, bon, mental, bon. Elle dit, l'important, c'est pas de remuer ou pas les lèvres. Quand on remue les lèvres, on parle vocalement, ou pas, on est en silence, d'accord. L'important, ce n'est pas ça, si on remue ou qu'on ne remue pas les lèvres. Hein. L'important, c'est de savoir à qui on parle, à qui on s'adresse. Vous voyez comment elle dépasse les clivages. C'est de savoir à qui on s'adresse, comment lui parler, et ce qu'on est soi-même. Et donc, au fond, l'oraison mentale, c'est ça. Et ce n'est que cela. Alors, on va lire 22.1, si vous voulez bien.
Sachez, mes filles, qu'il ne suffit pas, pour que l'oraison soit ou non mentale, d'avoir la bouche fermée. Si, lorsque je parle, je conçois et vois vraiment que je parle à Dieu, si j'y prête plus d'attention qu'aux mots que je dis, cette prière est à la fois mentale et vocale. Mais si on vous dit que vous parlez à Dieu quand vous dites le Pater Noster en pensant au monde, je n'ai plus qu'à me taire.
Bon, c'est clair, si vous avez l'esprit divisé, votre attention divisée, vous semblez parler à Dieu en disant ces paroles, mais vous pensez à autre chose, d'accord ? Que là, je me tais, je dis, là, je peux rien pour vous, c'est ça que ça veut dire. Ça va ? Bon.
Pour vous comporter comme il faut, quand vous parlez à un si grand Seigneur, il est bon de considérer à qui vous parlez et qui vous êtes, pour parler au moins en personne bien aimée.
Bien. Alors, elle va nous faire un petit traité de savoir-vivre avec Dieu dans la prière, c'est assez intéressant. Un petit traité de politesse et de courtoisie à l'égard de Dieu. Et oui, elle va nous faire comprendre que le Seigneur est bien sûr notre ami et que l'oraison, c'est un échange d'amitié, mais il est toujours le Seigneur et donc on n'est pas copain-copain, comme on dit en français. Voilà. C'est pas pour rien qu'elle l'appelle Sa Majesté. Alors, elle va nous faire un petit manuel de savoir-vivre, évidemment, en lien avec la cour de Madrid. C'est clair. C'est la référence. On peut lire ça ?
Car comment pouvez-vous appeler le roi Altesse ou connaître le cérémonial qu'on observe pour parler à un grand si vous ne savez pas bien quelle est cette position et quelle est la vôtre ?
Ah, les grands d'Espagne, hein, c'était le sommet du sommet, les grands d'Espagne. Elle fait partie des grands d'Espagne. Ils étaient 100 ou quelque chose comme ça. C'était le sommet du sommet. La crème de la crème, comme on dit maintenant. Hein, le top du top, le must du top. Ou le top du must, quand j'en sais rien. Bon.
Vos hommages en dépendent. Ils doivent se conformer à l'usage que vous devez connaître également. Sinon, on vous jugera naïve et vous n'obtiendrez rien.
Littéralement, on vous prendra pour un idiot. Hein. C'est plutôt ça. Hein. C'est un peu plus fort dans le texte. D'accord ? On peut lire encore.
Mais qu'est-ce là, mon Seigneur ? Mais qu'est-ce là, mon empereur ? Comment peut-on l'admettre ? Vous êtes roi, mon Dieu, à jamais, puisque votre royaume n'est pas un royaume d'empereur. Quand on lit dans le credo, votre règne n'aura pas de fin. C'est presque toujours pour moi un régal tout particulier. Je vous loue, Seigneur, et je vous bénis à jamais. Enfin, votre royaume durera toujours. Vous, Seigneur, ne permettez donc jamais qu'on juge bon de ne parler que du bout des lèvres quand on s'adresse à vous.
Bien, vous voyez, plusieurs considérations, ça se mêle. Hein. Bon, d'une part, donc le respect de Dieu, la révérence, respect révérentiel, la crainte. On ne peut pas abuser de la proximité et de la bonté de Dieu dans l'amitié de la prière. Alors, on ne va pas lire le 4, mais il y a une petite phrase assez sympathique. Dieu est humble avec nous, le roi divin est humble, il préfère la simplicité du berger au raisonnement des savants. Mais ce n'est pas une raison pour se montrer impoli, Dieu reste Dieu. Et alors elle a cette phrase, « Ne serait-ce que pour le remercier de supporter près de lui la mauvaise odeur de quelqu'un comme moi, nous ferions bien de chercher à connaître sa pureté et ce qu'il est. » Ça va ? Paragraphe 4. Bon, c'est ça. Donc, on ne peut pas abuser de la bonté, de la proximité de Dieu dans cette amitié de la prière. Le Seigneur est le Seigneur. Dieu est Dieu. C'est donc Sa Majesté. Ce n'est pas seulement un titre pittoresque, d'une époque révolue. Pour Thérèse, c'est l'expression d'une conviction foncière, d'un sens certainement très affiné de la grandeur de Dieu, de son infinité. Ah oui, alors vous avez au paragraphe 6 et 7 une petite exclamation. Alors, elle est bonne, elle est très bonne dans l'Escorial. Très très bonne. Au chapitre 37 de l'Escorial. Alors là, je vous la traduis. Donc vous voyez tout ce qu'elle dit à propos des royaumes. C'est le royaume du Seigneur qui l'intéresse. C'est un royaume qui n'aura pas de fin. Hein. Donc le sens des valeurs temporelles, tout ça. Hein. Et en même temps, elle accourt au roi pour que le roi soutienne la réforme, sa réforme. Hein. Donc vous voyez. Elle sait l'utiliser sans problème. Hein. Enfin, bon, les choses sont un peu remises à leur place. Alors, elle s'adresse au Christ et elle dit cette chose, « Ô roi de gloire, Seigneur des seigneurs, empereur de tous les empereurs du monde, hein, bon, saint des saints, pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, savoir au-dessus de tous les savoirs, la sagesse même. Vous êtes, Seigneur, la vérité même, la richesse même. Votre règne n'aura pas de fin. » Oui, réfléchissez quand vous vous approchez de lui, à qui vous allez parler et à qui vous parlez déjà. 1000 vies comme la vôtre ne suffiraient pas pour comprendre comment mérite d'être traité ce Seigneur devant qui tremblent les anges. Crainte. Il y a au ciel la crainte. La crainte révérentielle des anges pour Dieu. Donc, dans l'oraison mentale, dans la prière mentale, il y aura cette reconnaissance de la grandeur et de la sainteté de Dieu et la prise de conscience de notre indignité personnelle. C'est une mise en vérité. Et donc, c'est la mise en exercice des vertus de justice et de religion qui nous font rendre à Dieu le culte qui lui est dû. C'est ça, la vertu de justice et la vertu de religion. Je vous renvoie à saint Thomas d'Aquin. Donc l'oraison mentale devrait informer toute prière, y compris la prière vocale. Là, elle ne comporte aucun danger malgré tout ce qu'on pourra en dire. C'est ça l'oraison mentale. Savoir à qui on parle et qui on est et ce qu'on dit. C'est ça l'oraison mentale, tout simplement. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, on dirait en français vulgaire. Fouetter un chat. Il n'y a pas de quoi faire un problème de ça. C'est le minimum. C'est le minimum pour la prière. Oui ? Deuxième texte. Alors là, on a une distinction, j'allais dire quasiment de théologie spirituelle, entre prière vocale, prière mentale, oraison mentale, et contemplation. Alors, on va voir ce que c'est. Pour tout vous dire, il faut vous situer un petit peu l'affaire, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Sainte Thérèse nous fait comprendre la contemplation comme vraiment une œuvre exclusive du Seigneur dans la prière. Je crois que c'est la pointe, c'est l'axe essentiel. Elle va y revenir ensuite, on verra, quand elle aura abordé le commentaire de « Que ton règne vienne », justement. Qu'est-ce que c'est que ce règne de Dieu, ce royaume intérieur de Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Elle parlera de l'oraison de quiétude, alors on verra un peu mieux. Mais là, elle va nous faire comprendre cela. Alors, c'est donc le chapitre 25, c'est sur les paragraphes 1, 2, 3, 4, les pages 708 à 710 dans l'édition illicite du Seuil. Alors, je vais le lire parce que j'ai fait beaucoup de coupures, parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour raccourcir un tout petit peu, je suis désolé pour nos lecteurs. Vous allez essayer, vous suivez dans votre texte, c'est sur les paragraphes 1, 2, 3 et 4. Donc, vous essayez de vous... Je fais quelques sauts. N'allez pas croire que l'on tire peu de profit de la prière vocale dite avec perfection. Maintenant, elle prend sa logique. On nous dit, la prière vocale vous suffit, le pater et l'ave vous suffisent. Qu'à cela ne tienne, il peut se passer de grandes choses si on prie la prière vocale avec perfection. Et on peut être élevé par Dieu à la contemplation. Je vous le dis, il est très possible que, tandis que vous récitez le pater ou une autre prière vocale, le Seigneur vous élève à la contemplation parfaite. Vous avez ça ? C'est le paragraphe 1 du chapitre 25. Vous n'avez pas ça ? Vous devez l'avoir, mais c'est dans le texte. Sa Majesté montre de la sorte... Alors attention, si vous suivez le texte précisément, vous allez voir qu'il y a une petite erreur. Sa Majesté montre de la sorte qu'il entend celui qui lui parle. Vous avez ça ?
Oui.
Et... Qu'est-ce que vous avez après ? Je n'entends rien. Puis-je avoir une voix, une seule voix ?
Ce souverain maître lui parle à son tour.
Bon, de la sorte qu'il entend celui qui lui parle, et il lui parle à son tour. Non. C'est pas juste.
Et quel dernier lui répond ?
Il entend celui qui lui parle, et ensuite ?
Et au point même que.
Et au point même que, quoi ?
Que sa grandeur, les femmes, lui manque.
Non, mais là, c'est toi qui fais la traduction.
Mais
que dit notre cher Marcel Auclair ?
Et sa grandeur lui parle à son tour, en suspendant son entendement.
Ah, c'est pas si mal. Pour une fois, elle a plutôt mieux vu. Et le cerf, Marie du Saint-Sacrement ?
À celui qui lui parle et qu'elle daigne lui répondre, suspendant son entendement, arrêtant ses pensées et pour les dire ainsi.
Alors,
la parole.
Bon, elle essaie d'approcher, mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc, le seuil, c'est dans les choux, cette fois-ci, vous voyez ? C'est pas bon. Alors, littéralement, c'est assez intéressant, mais c'est pas évident à apercevoir en espagnol ancien. Sa Majesté lui montre par ses voix qu'il entend, Sa Majesté, c'est le Christ, qu'il entend celui qui lui parle, et... Il le habla su grandeza. Alors, je pense que dans vos deux traductions, ils ont voulu dire que su grandeza le habla, et sa grandeur lui parle, au sens d'un titre, ça va un petit peu dans ce sens-là. Mais en fait, c'est pas ça. Il le habla su grandeza, et sa majesté lui parle sa grandeur, lui dit sa grandeur, sous-entendu, lui fait sentir sa grandeur, tout son poids, c'est ça, littéralement. Donc, le seuil, c'est pas du tout dans le truc.
Ah, d'accord.
Il y a un contresens, me semble-t-il. Mais j'aurais peut-être un peu de mal à le prouver. Mais si je lis bien l'espagnol classique, là, Sa Majesté entend celui qui lui parle et il lui parle sa grandeur en lui suspendant l'entendement et en voilà, suspendant la tzemach. D'accord, hein? Donc le sujet, c'est bien Sa Majesté qui parle, mais qui parle quoi? Qui parle sa grandeur, qui dit sa grandeur, qui exprime sa grandeur. Vous voyez ça? Je pense que c'est ça le sens. Dieu exprime sa grandeur en réponse. Il fait sentir sa grandeur. Est-ce que vous auriez ça en anglais?
Oui.
Mais c'est pas la
contemplation déjà. Vous allez voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la traduction en anglais. Je veux savoir si l'anglais me donne raison.
En anglais, c'est "And in it is His grandeur that speaks to the throne."
And it is
His grandeur that speaks to the throne.
That speaks to
the soul.
Et non. Là, ils font la même chose qu'en français. Et c'est sa grandeur qu'il parle. Ah, bon. Oui, mais je pense que c'est pas ça. C'est lui, il dit sa grandeur. Vous comprenez ce que je veux dire en français au moins? Lui, il dit, il parle sa grandeur, il exprime sa grandeur.
Ça veut dire God speaks His
God speaks or Christ speaks His. Comment vous dites grandeur en anglais?
Grandeur.
Il dit, il exprime, il montre, il fait sentir, vous voyez? Je pense que littéralement, c'est ça, à mon sens. Mais bon, je ne refais pas une traduction, je la mettrai en vente, hein, mais je pense que c'est ça. Hein? Dieu exprime sa grandeur. C'est très important parce qu'après, on sent ce poids de Dieu. Kadosh, la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu exprime sa grandeur, il fait sentir tout son poids. Vous voyez, c'est ce sens de la gloire de Dieu dans la Bible. Hein? Je crois que c'est ça. C'est ça, vraiment. Ça peut aller? Wow. C'était un leitmotiv d'un certain voyage. Bon. Il lui dit sa grandeur en suspendant son entendement, en arrêtant sa pensée, en lui enlevant les mots de la bouche. Il lui arrache les mots de la bouche, tais-toi. Comme on dit, car bien qu'on le veuille, on ne peut plus guère parler que difficilement. L'âme est mise dans le silence. C'est Dieu qui parle. Il parle sa grandeur, vous voyez ça? Je coupe, je vais un peu plus loin là, hein? Donc suivez comme vous pouvez, c'est peut-être le paragraphe suivant. L'âme est embrasée d'amour sans savoir comment elle aime. Je coupe encore. La volonté embrasse ce bien sans savoir comment, et si elle peut comprendre quelque chose, elle voit que ce bien-là ne peut se mériter sur terre même, si on endurait toutes les épreuves possibles à la fois. C'est un don du Maître de la terre et du ciel, un don digne de lui. Dieu parle, Dieu donne, c'est ça la contemplation. Voilà, mes filles, ce qu'est la contemplation parfaite. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose de plus. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait que c'est Dieu qui donne, on sait que c'est Dieu qui met dans le silence, on sait qu'on ne peut pas le mériter malgré toutes les épreuves, on sait qu'on embrasse un bien, qu'on est embrasé par ce bien. Qu'est-ce que c'est? Voilà, mes filles, ce qu'est la contemplation parfaite. Vous pouvez comprendre maintenant en quoi elle diffère de l'oraison mentale, qui consiste en ce que je vous ai dit. Penser à ce que nous disons, le comprendre, comprendre à qui nous parlons et qui est celle qui ose ainsi parler à un si grand Seigneur. D'accord ? Je coupe. Récitez le Pater Noster et l'Ave Maria ou ce que vous voulez, c'est de la prière vocale. Je coupe. Dans ces deux formes de prière, nous pouvons quelque chose. Nous pouvons quelque chose avec la grâce de Dieu. Toujours. Dans la contemplation dont je viens de parler, nous ne pouvons rien. Ninguna cosa. C'est Sa Majesté qui fait tout. Su Majestad es el que todo lo hace. C'est son œuvre et sobra suya. Elle surpasse notre nature, sobre nuestro natural. C'est ça le surnaturel pour s'intéresser. C'est quand, malgré toutes nos industries et nos efforts, nous ne pouvons rien, et quand c'est Dieu qui. C'est ça le surnaturel pour elle. Elle le redira dans une relation, un peu plus tard. Cela surpasse notre nature. Je coupe. Lui seul peut faire ce don. Il ne vous le refusera pas. Si vous ne restez pas en route, mais vous efforcez d'arriver au terme. Voyez, notre disposition, c'est la détermination. Mais c'est son œuvre. Donc voilà quelque chose qui est fondamental pour Thérèse. La contemplation, c'est don de Dieu, œuvre de Dieu. Il est Seigneur du ciel et de la terre. Nous n'y pouvons rien sinon nous disposer et nous déterminer. C'est tout. Par contraste avec la prière vocale et l'oraison mentale, la contemplation se distingue comme une œuvre exclusive de la toute-puissance mystérieuse de Dieu qui impose à l'homme silence, réceptivité intérieure. C'est quelque chose, ça, n'est-ce pas ? Donc, nous remercions Sainte Thérèse de nous avoir donné ces distinctions qui ne sont pas habituelles chez elle, mais qui nous arrangent bien ici. Elle a fourni un effort considérable. Elle devait avoir mal à la tête après avoir fourni cet effort, ça c'est clair. Bon. Nous y reviendrons à cette contemplation par la suite dans le commentaire du Notre Père, donc avec la demande que ton règne vienne. Vous verrez comment tout cela est corroboré, confirmé. Alors, au chapitre 26, après toutes ces clarifications, donc, la prière du Seigneur contient toutes les formes de prière, tout le dynamisme de la prière. Il s'agit d'y entrer, de recevoir la prière et les mots du Christ Jésus. Il s'agit d'entrer dans la prière avec le Christ, qui en est le maître et le médiateur. Voilà un point excessivement important. Et Sainte Thérèse va ressaisir dans ce chapitre 26 du chemin de la perfection, Valladolid, à travers ce qu'on peut appeler une méthode, une technique, mais pas tout à fait cela, un style plutôt, thérésien de prier, mais qui est l'œuvre de notre effort, de notre détermination et de notre effort, de notre disposition, qu'elle appelle le recueillement. L'oraison de recueillement. Le recueillement, l'intériorisation, va non pas prendre le pas sur la récitation du pater, prière vocale, mais l'animer, l'envelopper. C'est tout le sens de ce chapitre 26. C'est 28 dans le seuil. C'est un chapitre très connu, très utile aussi, avec une pédagogie pratique du recueillement. Mais je souligne d'emblée, tout de suite, la clé fondamentale, c'est avec le Christ, par le Christ et dans le Christ. Et évidemment, elle ressaisit tout l'enseignement qu'elle a donné déjà dans le chapitre 22 du livre de la vie, vie 22. Au terme de l'allégorie, de la comparaison, les quatre manières d'arroser le jardin de l'âme, quatre eaux qui donnent les différentes étapes du processus de la prière qu'elle a donné. C'est un premier jet qu'elle a donné dans le livre de la vie en 1565, un mini-traité qui deviendra plus tard les sept demeures, quatre manières d'arroser le jardin. Alors, elle a mis au terme de tous ces chapitres dans le livre de la vie, c'est les chapitres 11 à 21, c'est très long, et c'est parfois un peu rasoir, faut reconnaître, de monotone, parce qu'elle n'a pas, comment dire, la présentation beaucoup plus claire, simplifiée, synthétique du château intérieur, ce sera 12 ans plus tard. Elle met au terme de cette allégorie des quatre manières d'arroser le jardin de l'âme, et donc les diverses étapes de la prière, un chapitre clé, 22, qui est un chapitre sur la médiation du Christ dans la prière, à partir d'une expérience qu'elle a faite, et qui est une expérience négative. Elle avait lu un livre qui apprenait à se recueillir, qui était le troisième abécédaire du franciscain Osuna, qu'elle avait découvert dans une convalescence, un livre, un best-seller spirituel de l'époque que lui avait prêté son oncle, et elle l'avait lu avidement, et elle avait trouvé comment à faire un apprentissage, si vous voulez, du recueillement. Elle dit que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, elle ne savait pas comment se recueillir. Vous voyez qu'elle dit bien qu'elle avait un esprit très emballé, très distrait, comme un cheval qui s'emballe, et qu'elle n'arrivait pas à méditer, hein, à fixer son intelligence de manière discursive, articulée et structurée. Et donc, ce livre lui a appris à se recueillir, hein, dans son intériorité, au-dedans d'elle-même. Ce livre, au fond, confirmait, reprenait l'expérience de saint Augustin, hein, qui a découvert Dieu davantage en lui-même que dans la création, puisqu'il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Hein. Donc le livre l'engageait à suivre ce chemin, elle l'a suivi de toutes ses forces, mais dans ce livre, il y avait un petit risque, un petit écueil, c'est qu'il insistait beaucoup sur les effets un peu sensibles de la prière contemplative, du recueillement. Il y avait un petit peu des techniques aussi qui faisaient percevoir plutôt le divin, la divinité, hein. Donc il y avait des choses, bon, Osuna était encore assez classique, hein. Il y avait d'autres franciscains, d'autres livres des franciscains qui là étaient franchement déviants, hein. Et en tout cas on invitait le lecteur, à mesure qu'on progressait dans l'oraison, à travers ses états, qu'on devenait progressant, à laisser de côté les choses créées, pour ne plus élever des créatures vers le Créateur, et dans ces choses créées, on incluait la sainte humanité du Christ. Et donc, on invitait les gens à s'absorber dans la divinité, quelque chose un petit peu comme ça, voilà, mystérieux, et à faire abstraction du Christ dans la prière. Donc, Osuna était certainement le plus nuancé à ce sujet-là, mais on voit bien des affirmations qui ne sont pas très nettes, pas très claires. Et il y avait d'autres auteurs franciscains, alors là, c'était franchement déviant. Hein. Et tous ces livres-là seront mis à l'index de Valdez, d'ailleurs. Hein. Et pour cause, donc voilà. Alors, Sainte Thérèse, qui découvre le recueillement, qui voit que dans le recueillement, ben, elle n'est pas toute seule, que Dieu répond, qu'il y a une influence, une action de Dieu dans la prière. Elle trouve que c'est très bien, c'est très agréable, c'est très savoureux. Donc elle cherche à renouveler ses expériences savoureuses, hein, et donc à s'abîmer un peu dans cette divinité, dans ce mystère de Dieu, dans la sagesse divine, tout ça. Et donc bah, le Christ, terminé quoi. Et elle dit que cela lui a duré peu de temps et que quand même, elle voyait que c'était pas très bien, pas très normal, pas tout à fait dans l'ordre. Parce que, évidemment, elle avait le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Et elle aimait beaucoup aussi les icônes, les images du Christ. Donc elle avait des correctifs quand même. Enfin, c'était des livres qui... Alors, elle appelle ça la grande trahison de sa vie. Elle a abandonné le Christ. Elle a pensé qu'elle pouvait rejoindre Dieu dans la prière sans passer par le Christ. Alors, elle a ce chapitre absolument fulminant sur la médiation du Christ dans la prière. Chapitre 22 dans le livre de la vie. Elle reprendra ça dans les sixièmes demeures, au chapitre 7, dans le château, parce que c'est une conviction pour elle, mais une conviction parce qu'elle a fait une expérience cuisante. Elle a abandonné le Christ. Et s'est rendue compte qu'elle ne progressait plus. Elle était dans des trucs un peu, voilà, un peu zen, quoi. Voilà. Parce qu'elle avait lâché le Christ, ce sont les jésuites. Ah ! Qui l'ont recentré sur... par la méditation des scènes de la Passion. Ils ont essayé de la faire méditer, mais au moins qu'elle fixe son regard sur les scènes de la Passion. Passos, les scènes de la Passion. Et ils l'ont obligée à revenir à l'humanité du Christ. Et ça l'a réveillée. Ça l'a complètement réveillée. C'était des jésuites de 24 ans, elle en avait 40 et des poussières. Il a fallu qu'elle obéisse. Elle n'avait pas envie de les consulter parce qu'elle se disait qu'il faudrait certainement leur obéir. Elle n'en avait pas envie. Puis elle a accepté finalement parce que bon, ça devenait assez compliqué, son oraison, tout ça. Donc elle n'avait pas à s'en sortir. Donc elle les consulte et lui dit ça. Et saint François de Borgia confirme, hein, dans la visite, et confirme aussi qu'elle peut vraiment accueillir la grâce de Dieu dans la prière, peu importe les effets. L'important, c'est de se concentrer non pas sur les effets de la grâce, mais sur l'auteur de la grâce et le médiateur de la grâce. Voilà ce qui lui manquait et que les bons pères lui ont permis de retrouver. Ça va ? Alors, il y a ça derrière ce chapitre 26 de sur l'oraison de recueillement avec le Christ, par lui et en lui. Hein, c'est très clair. Alors, qu'est-ce que c'est que ce recueillement pour une Thérèse qui ne peut pas méditer les scènes de la Passion comme on le proposait, en sectionnant les choses, en prenant des résolutions, en analysant, en discourant, etc. Qu'est-ce que c'est que donc de vivre cette médiation du Christ dans la prière pour recevoir de lui les paroles du Pater? C'est très simple pour Thérèse, ce chapitre il est plus à prier qu'à lire, hein, on va pas le lire. Puisque vous êtes seul dans la prière, recherchez une compagnie. Quelle meilleure compagnie que la compagnie de Jésus, bien sûr, que celle du Maître lui-même qui vous a enseigné la prière que vous allez réciter. Donc on n'a pas encore récité la prière, on va réciter la prière. Ça va arriver le chapitre d'après. Et alors, voilà ce qu'elle dit, c'est ça la clé. Représentez-vous le Seigneur près de vous et regardez avec quel amour et quelle humilité il vous enseigne. Si vous vous habituez à l'amener près de vous, vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Ça va ? C'est paragraphe 1, 3 petits points de suspension à 5. En quoi consiste le recueillement ? Le recueillement consiste à représenter, à rendre présent et proche le Christ. Non pas à l'aide de l'imagination, de l'activité sensorielle, comme ce serait le cas, j'espère ne pas caricaturé dans les exercices de Saint Ignace, hein, non pas à l'aide de l'imagination discursive, de la composition de lieux, etc., mais par un simple regard intérieur qui rejoigne celui du Seigneur. Il s'agit de recueillir le regard pour regarder au-dedans de soi ce Seigneur. 26.8, page 715. C'est pour ça que dit Sainte Thérèse, les gens qui prient comme cela ferment les yeux. On ferme les yeux, on se recueille. Il s'agit de regarder au-dedans de soi le Seigneur présent, d'un regard simple et direct. Elle dit, je sais bien que c'est très difficile, voilà, vous me dites qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à durer, ainsi de suite. Je ne vous demande que de le regarder, il n'attend de vous qu'un regard, que, ce n'est que cela, un regard de l'âme. Et elle dit, vous regardez bien les choses les plus laides du monde, vous y passez du temps, votre regard si complet, et vous ne regarderiez pas la chose la plus belle qui soit, le Christ, la beauté du Christ. Et ouais. Donc, toujours et tous, vous pouvez faire cela. Et ce qui est intéressant dans le texte, vous pourrez le lire, le prier, je vous y engage, hein, ce chapitre est magnifique. C'est un regard, parce que le Seigneur est à notre disposition. Hein. Elle dit, il est à notre disposition, comme la femme doit être disponible à son mari. Puis elle dit aux sœurs, vous voyez de quel esclavage vous êtes libérées en devenant religieuse. Vous n'êtes pas au service d'un mari. Vous voyez de quel esclavage vous êtes libéré. Bon. Alors, le Seigneur fait cela. Il est à votre disposition. La femme, quand elle accueille son mari à la maison, s'il est triste, il faut qu'elle soit triste avec lui, qu'elle compatisse. S'il est heureux, il faut qu'elle le félicite, qu'elle soit heureuse avec lui, même si elle n'a pas du tout ces sentiments-là. Mais il faut qu'elle fasse pareil, qu'elle soit au diapason. Elle dit ça. Elle dit, bon, voyez de quel esclavage vous êtes libéré. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait pour vous. Il n'attend de vous qu'un regard. Si vous êtes triste, regardez-le à Gethsemane, regardez-le flagellé, regardez-le portant sa croix, etc. Et lui, il vous regardera de ses six beaux yeux. Si vous êtes dans la joie, regardez-le, ressuscité, etc. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que c'est un regard, celui du recueillement, qui embrassera tout le mystère divino-humain du Christ, tous les mystères de sa vie terrestre, de sa passion, de sa résurrection. Exactement ce que dira Jean de la Croix, le Christ est tout entier pour moi. Voilà, c'est formidable. Hein? Il nous appartient tout entier. Donc ce recueillement, c'est quelque chose de très simple, de très direct, et en même temps de très profond, de très grand, de très riche. Recueillir le regard, donc faire abstraction des choses de ce monde qui nous entoure, qui font pression sur nous, fermer les yeux sensiblement, s'abstraire de ses préoccupations autant que faire se peut, de ses inquiétudes, de ses obsessions, de tout ce qui fait pression sur notre liberté et notre attention, pour le regarder, lui qui est au-dedans de nous et qui nous tient toujours compagnie. C'est donc tenir compagnie à celui qui nous accompagne toujours. Et si vous n'y arrivez pas au premier instant, renouvelez votre regard. Ce regard, ce recueillement, c'est ni plus ni moins que le retour de l'homme vers Dieu dans le Christ, quand il se met à l'écoute du maître intérieur qui enseigne à prier. Sainte-Thérèse dit, ça ne va peut-être pas marcher du premier coup, elle dit au paragraphe 10. Tenez compte qu'il y a beaucoup d'années que l'âme s'est éloignée de son époux et qu'il faut user de beaucoup de diplomatie pour qu'elle retourne chez elle. Il faut retourner chez soi, la demeure paternelle. User de beaucoup de diplomatie, beaucoup d'industrie. 26-10, page 716. Donc, il faut savoir accepter le temps qu'il faut pour ça. Mais ce n'est pas compliqué. Mais il y a un deuxième point qui est très important aussi pour elle, et vous voyez qu'on retrouve toujours cet axe fondamental. Ce regard engage aussi l'effort et le courage de rester près du Seigneur, mais aussi de l'imiter. Si on le regarde, c'est pour l'imiter. El hacemos juntos andemos, Señor, por donde fuereis, tengo de ir, por donde pasareis, tengo de pasar. Marchons ensemble, Seigneur. Par où vous irez ou vous allez, je dois aller. Par où vous passerez, je dois passer. Passer la Pâque. 22-6, page 714. Comment le réaliser? Elle est très concrète. Paragraphe 9, paragraphe 10. Cela peut être au moyen d'une image, d'une icône qui représente le Christ, et qui donc par là est moyen de grâce, car elle renvoie au modèle qu'elle représente. C'est la théologie et le dogme des icônes dans l'Église catholique, d'Orient et d'Occident, ou bien au moyen d'un livre, qui est un bouclier contre la distraction des pensées, car évidemment le mot distraction est le contraire de recueillement. Distraction, recueillement. Distraire, recueillement. Voilà, nous sommes au terme de ces chapitres. Et nous entrons dans le commentaire du Notre Père, chapitre 27, 28, 29, qui traite du grand amour que le Seigneur nous a montré dans ses premiers mots du Pater Noster, et combien il importe beaucoup de ne faire aucun cas du lignage pour celles qui sont en vérité les filles de Dieu, les enfants de Dieu. Alors on va toucher quelque chose d'assez important là. J'y entre déjà parce que, oui, il nous reste 3 minutes. 16h30, 18h30, on est d'accord, c'est ça? Non, ou c'est 18h25? 18h30. 18h30 le mercredi, on est d'accord? Bon, je vais vous laisser là-dessus. Ces paroles du Seigneur, notre Père. Alors, Sainte Thérèse, elle va parler des lignes, des pages sur notre Père. Que le Maître nous enseigne, nous le recevons dans la joie, ses premiers mots, notre Père. Elle ne se lasse pas dans ces chapitres de s'en réjouir. Dites avec le Christ et en lui, elle nous met en relation avec le Père du ciel. Nous sommes, en passant par le Christ chemin, aspirés dans la Trinité, car dira-t-elle, il y a forcément l'Esprit Saint entre un tel Père et un tel Fils. Trinité. Donc c'est notre identité filiale qui apparaît ici. Mais aussi, et c'est très intéressant, sur le plan social, le plan des conséquences, notre égale dignité. Nous sommes tous enfants d'un même Père, nous participons à la communion des saints qui sont dans le ciel avec le roi. Et là, dans la cour céleste, il n'y a pas de discorde, de jalousie comme à la cour de Madrid. Notre Père qui est aux cieux. Et surtout, nous sommes toutes égales devant Dieu. Il importe peu de ne faire aucun cas du lignage pour celles qui sont en vérité filles de Dieu. On n'est pas plus les unes que les autres selon que notre Père est ceci et cela, notre Père de la terre. Car nous avons notre Père dans les cieux. Alors ce qui est intéressant, et c'est beaucoup souligné au chapitre 28, puis au 29, donc 27 c'est davantage sur cette question de la dignité filiale, et donc fraternelle si vous voulez, hein, ça se tient. Au chapitre 28 on voit que on est aspiré dans le ciel par le recueillement, le regard intérieur porté sur le Christ, et donc on assiste à un élargissement formidable, on se recueille pour être élargi. Il y a une dilatation de l'espace intérieur de l'âme, de sa capacité de relation et de communion. On s'enferme, dit-elle, dans ce petit ciel de l'âme pour y recevoir avec celui qui est Seigneur et qui remplit mille mondes la liberté qu'il apporte toujours avec lui. 28, 11 et 12. On s'enferme, on se recueille, mais on est dilaté, élargi, on reçoit la liberté que le Seigneur apporte. Le recueillement, c'est pour un élargissement et un agrandissement de l'homme. Et Thérèse dit qu'il n'est pas exclusif du temps de l'oraison. Il est un choix et un style de vie. Il doit continuer dans la journée où l'on tient compagnie à celui qui nous accompagne toujours, le Saint des Saints. 29, 4 et 5. Voilà, à demain. J'espère que vous aurez bien l'une ou l'autre question, non, pour démarrer le cours, on verra.